Ouais, c'est normal que les gens ne sachent plus rien. Les études ne sont plus ce qu'elles étaient. De mon temps, on apprenait les départements, les préfectures, les sous-préfectures, Pas-de-Calais, Chef-lieu-Arras, etc.
Espèce d'espace, l'émission qui va vous faire aimer la géographie.
Espèce d'espace,
du changement que ça a fait quand on a pris la Bastille, enfin.
C'est monsieur, quand on prend le métro, ça fait un changement en République.
Pour la deuxième espèce d'espace, nous sommes sur le quai de la station Gambetta dans le 20e arrondissement de Paris, au départ de la ligne 3 bis.
Nous vous emmenons pour un aller-retour Gambetta-Porte des Lilas, sous et sur Terre. Alors la ligne 3 bis, que peut-on dire de cette ligne, Alexandre ?
Eh bien, c'est la plus petite ligne du métro parisien. Elle fait un peu plus de 1 km, 1,3 km pour être précis. Elle a seulement 4 stations, Gambetta, que nous venons de quitter, Pelleport, Saint-Fargeau et Porte des Lilas.
Il y a une ambiance un peu bizarre ici, non ?
Oui, nous sommes très loin des wagons bondés de la ligne 3 qui nous a amenés à Gambetta et que nous allons retrouver sur la ligne 11 à Porte des Lilas.
Ah oui, tout le contraire ici. Dans ce métro, qui n'est composé d'ailleurs que de 3 wagons, il n'y a pas de strapontin. Et pourtant, il y a bien plus de places assises que de passagers.
S'il y a des passagers. Je comprends mieux maintenant la plaisanterie du Gorafi qui titre son article du 4 février 2016 « Paris, un passager aperçu sur la ligne 3 bis ».
Oh, t'exagères. En 2015, il y en a quand même 363 000 qui sont passés par Pelleport. Bon, c'est pas grand-chose par rapport aux 51 millions à la gare du Nord, mais voilà quoi. On vient quand même d'en rencontrer un de passagers, non ? Ou plutôt une, sur le quai.
Du coup, pourquoi vous prenez cette ligne 3 bis ?
Quand je suis feignante.
C'est vrai ?
Parce que du coup... Sinon, je monte... Non, je la prends rarement, en fait. Quand je suis feignasse.
Dit Marie, qui habite dans le quartier.
Aujourd'hui, j'ai pas envie de marcher.
Donc vous rejoignez après la Porte des Lilas ?
Même pas, je vais à la première station, en fait.
Pelleport ?
Monoprix, voilà, tout à fait.
C'est ça. D'accord.
Voilà, tout simplement.
Juste comme ça. Okay.
Voilà, comme ça, parce que j'ai pas envie de marcher.
Mais donc c'est juste une ligne pour gagner du temps, ou a-t-elle un autre intérêt à ton avis ? C'est quoi sa fonction dans le réseau de mobilité parisien ?
En regardant le plan de cette ligne, on remarque qu'elle relie deux gros pôles, Gambetta et Porte des Lilas. Gambetta est desservie par la ligne 3 et par les lignes de bus 60, 64, 69. Porte des Lilas est desservie quant à elle par le T3, la ligne 11 et les lignes de bus 96, 48 et 41.
En fait, je crois qu'à l'origine, en 1910, cette ligne 3 bis a été conçue comme une extension de la ligne 3, en direction de la Porte des Lilas. Mais, en 1971, comme on s'est rendu compte que les gens allaient plutôt vers Gallieni que vers la Porte des Lilas, ces 4 stations ont été détachées pour constituer la ligne 3 bis, d'où cette apparence de bras mort.
Pour lui redonner un peu de vie, une fusion avec la ligne 7 bis est prévue d'ici 2030, qui passerait notamment par la station fantôme Axo.
Et voilà, Porte des Lilas.
Déjà ?
Eh oui, 4 stations, ça passe vite. Ouah, ils sont grands les escalators. On a dû s'enfoncer très profondément avec le métro.
Nous sommes maintenant à l'air libre, Porte des Lilas.
Poinçonneur des Lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas.
Il n'y a pas de soleil sous la terre, drôle de croisière pour tuer.
Alors là, tout de suite, ce qui me frappe, c'est le nombre de bus qui traversent la porte.
En effet, on est véritablement sur un nœud de mobilité très important dans le nord-est de Paris, un pôle de redistribution des transports publics. La place fait office de terminal pour un nombre très important de bus. 48, 96, 105, 115, 129, 170 et 249. À cela, on peut ajouter le tramway qui se trouve à deux pas avec le périphérique derrière.
Tu le vois où le périph ?
Il est en fait sous nos pieds, un peu plus loin. En 2006, cette partie du périphérique a été recouverte, ce qui a eu pour effet d'effacer cette frontière physique entre Paris et les Lilas et de créer une véritable continuité urbaine. Désormais, la banlieue est intégrée à la ville-centre. Cela renforce le rôle de synapse de la place, c'est-à-dire de zone qui fait la liaison entre Belleville et les Lilas.
Et j'imagine que le projet Grand Paris va renforcer encore cette transition spatiale.
Et par là, c'est quoi ?
Avenue Gambetta. Elle relie la porte des Lilas à la place Gambetta, d'où nous sommes partis tout à l'heure. En fait, elle passe au-dessus du métro. Ou plutôt le métro passe en dessous. Enfin bref, c'est par là que nous allons pour faire le chemin retour. J'ai l'impression d'être sur une colline vu comment ça descend.
Ah, c'est pour ça que les escalators sont si longs. Tiens, terrain militaire, défense de photographier. Une caserne militaire à notre gauche. Pourquoi là ?
Bah, la colline, qui est à 120 mètres de haut à la porte des Lilas, devait sûrement servir de site défensif, d'où la présence de cette caserne, qu'on appelle en fait Centre Administratif des Tourelles et qui n'est rien de moins que le siège de la DGSE. Tu te sens surveillé, Alexandre ?
Pas tellement, non. Moi, ce que je remarque plutôt, c'est que maintenant, il n'y a pas que des installations militaires.
En effet, les friches tout autour de la caserne ont dû être reconverties, notamment en immeubles d'habitation, comme cette résidence SNI Les Tourelles, un peu plus bas.
Et aujourd'hui encore, il y a des projets de réhabilitation urbaine, et pas uniquement en construction, mais aussi en reconversion.
Au numéro 205 de l'avenue Gambetta, il y a ce bâtiment qui ne paye pas de mine de l'extérieur avec sa façade toute plate. Il comprenait un garage, un parc de stationnement et une copropriété de 12 logements. Mais cet immeuble va faire l'objet très prochainement d'une reconversion complète. En fait, elle entre dans le cadre de l'initiative Réinventer Paris, qui est une sorte de concours organisé par la ville de Paris en 2014. 23 sites, dont celui-ci, ont été proposés aux professionnels de l'architecture et de l'immobilier pour faire l'objet de reconversions.
Et donc ici, ça va devenir un studio de danse.
Exact. L'équipe qui a remporté le concours pour ce site est la Fabrique de Danse.
Pour résumer, le haut de l'avenue Gambetta est caractérisé par des processus de construction et de reconversion urbaine. On en apprend des choses juste en se baladant dans Paris.
Quand je chante la 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 la, parce que moi je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, 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 je me balade dans Paris, je me balade dans Paris, je me balade dans Paris. Rampapapam, rampapapam.
Tiens, l'édicule de la station Pelleport. Comme celui de la Porte des Lilas, il est différent de la plupart des autres édicules des stations de métro conçues par l'architecte Hector Guimard. Pour la ligne 3 bis, c'est l'architecte Charles Plumet qui a construit les édicules extérieurs des stations. Ils sont en béton armé et en ciment de Grenoble, ornés de céramique de Gentil et Bourdet. On y trouve les points de vente des billets et les ascenseurs qui permettent aux passagers d'accéder aux quais situés une vingtaine de mètres plus bas.
En géographie urbaine, une théorie assez intéressante a été proposée, pour faire vite parce qu'il n'est pas le premier à le penser, par Walter Kristaller en 1933 dans son ouvrage « Lieux centraux en Allemagne du Sud ».
Celui-ci définit en effet une relation entre une centralité, un lieu central, et ce qu'il appelle sa région complémentaire. Le lieu central propose à sa population environnante une série de biens et de services plus ou moins rares.
Cette propriété de centralité urbaine consiste donc en l'attraction exercée par un lieu sur l'espace environnant, ce qui suscite des flux convergents, notamment de consommateurs pour le cas qui nous intéresse. C'est ce qu'on appelle en un mot la polarisation.
Ce qui interpelle le plus en effet sur ce deuxième tronçon d'avenue, entre Saint-Fargeau et Gambetta, c'est la multiplication des commerces et équipements de proximité. On y trouve des primeurs, des épiciers, des boulangeries. On a aussi, entre autres, une laverie, une crèche municipale, une papeterie, un hôpital, un square. Tout ce qu'il faut pour vivre au quotidien.
On peut définir ainsi une portée maximale de l'avenue Gambetta et des services qu'elle propose. Par exemple, la passagère que nous avons interrogée sur le quai de la ligne 3 bis tout à l'heure se rendait au Monoprix de Pelleport. Elle habite au croisement de la rue de la Justice et du boulevard Mortier, c'est-à-dire à proximité immédiate du périphérique, et pourtant, elle vient faire ses courses avenue Gambetta, à 10 minutes à pied de chez elle. Du point de vue du consommateur, la portée de l'avenue s'étend donc à l'est, au moins jusqu'au périphérique.
Nous pouvons dire que l'avenue Gambetta, qui constitue une périphérie à l'échelle de Paris, est une centralité à l'échelle du quartier. Et c'est un lieu central non seulement pour les habitants, mais aussi pour les commerçants et les entreprises qui s'installent sur cette avenue.
En effet, les commerçants savent que cette avenue est attractive, qu'elle attire une clientèle importante. Ils s'y installent donc pour être visibles et vendre un maximum.
L'avenue est véritablement un axe stratégique pour eux, puisqu'elle est aussi un axe de circulation dense où se croisent voitures et bus qui font la liaison entre Porte des Lilas et la place Gambetta. Sans compter la ligne 3 bis qui marque 3 arrêts le long de cette avenue. C'est pourquoi l'offre y est si concentrée.
Ce pôle, attirant d'une part commerçants de proximité et d'autre part une clientèle importante venant de tout le quartier, ce pôle peut faire l'objet de bien des convoitises, non ?
Oui, cela se voit par exemple avec l'implantation prévue d'un carrefour dans le bâtiment de l'ancien rectorat, au 94 de l'avenue Gambetta. Ce grand lieu de 2000 mètres carrés, situé au centre de l'avenue, se trouverait privatisé par une des plus importantes enseignes d'hypermarchés en France, ce qui n'est pas du goût d'une partie des habitants.
Si on se balade un peu dans le quartier, il y a un truc qu'on peut pas rater. Il y en a à tous les coins de rue, des affiches protestant contre ce projet. Non à cette opération immobilière menée sans concertation dans le plus grand secret. Gardons nos boulangers, bouchers, primeurs et tous nos petits commerçants. Ou encore, oui, à des activités culturelles, sportives, sociales, associatives.
Voilà une initiative de citoyens qui se mobilisent contre l'accaparement du quartier par les enseignes de la grande distribution.
Surtout qu'elles sont déjà bien présentes dans l'avenue, ces enseignes. Juste en face du rectorat, il y a déjà un grand Monoprix et un Carrefour Express au 122, ainsi qu'un Franprix au 259.
Cette mobilisation sociale a abouti à une association, Carton Rouge, dont les membres sont très actifs. Ils ont créé un groupe public Facebook ainsi qu'un blog, Non au Carrefour, au Rectorat. Ce blog contient notamment une pétition en ligne et un dossier d'information très fourni.
Ici, un mode de vie est donc défendu contre une vision plus économique imposée par des acteurs institutionnels. Les habitants ne veulent pas subir, mais participer et dire leur avis. D'ailleurs, ils donnent rendez-vous aux habitants du quartier chaque samedi à 10h30 pour une table d'information organisée sur la place Saint-Fargeau.
Cette mobilisation sociale n'a vraisemblablement pas choisi cette place au hasard. Située au centre de l'avenue Gambetta, elle est desservie par les lignes 61 et 96 de bus et par la ligne 3 bis du métro. Cette centralité de la place Saint-Fargeau est utilisée par ce collectif pour se faire connaître auprès des habitants du quartier.
Ça fait beaucoup de centralité, dis-moi. Et puis on parle, et nous voilà déjà place Gambetta.
Comme le dit si bien Kenji, nous sommes maintenant place Gambetta.
Contrairement à la Porte des Lilas, qui était vraiment orientée vers une fonction de lieu de passage entre Paris et la Petite Couronne, ici, on a plutôt l'impression d'une place fermée. Une place où l'on vient délibérément, que ce soit pour prendre un café, aller à la mairie du 20e, ou aller voir la dernière pièce de Wajdi Mouawad à la colline.
Nous arrivons au terme de cette balade. Que pouvons-nous en retenir ?
Alors d'abord, une ligne de métro, la 3 bis, vraiment très étrange, à la fonction finalement assez floue. Ensuite, la Porte des Lilas, comme synapse entre Paris et les Lilas. Puis l'avenue Gambetta, comme axe de vie, comme centralité à l'échelle du quartier, et donc comme objet d'une appropriation locale et citoyenne. Et enfin, cette place Gambetta, où nous terminons cette émission. Oh, something good. Oh, something good tonight. Make me forget about you for now.
Merci de nous avoir écoutés.
Et rendez-vous sur radiocampusparis.org à la page Espèce d'espace.